Time Time Sport. Résultats, infos, analyse. Toute l'actualité sportive est dans Time Sport tous les jours de 20h à 21h avec Bilal Nelman sur Beurre FM.
Bonsoir à tous et bienvenue sur Beurre FM. Et oui, de suite après l'émission Désinformé avec Adil Farkan tous les soirs, eh bien, c'est nous. La plage horaire, c'est 20h, 21h de cette émission, votre quotidienne sportive qui est Time Sport en ce mercredi 29 septembre. Le standard, on l'ouvre comme d'hab avec Yanis, notre réalisateur, durant une heure, le 01 53 48 3000. Au menu de cette émission, on va revenir sur la victoire éclatante du Paris Saint-Germain sous l'ogre anglais qu'est City. Et oui, et les hommes de Pep Guardiola, sans oublier Verratti, l'Italien qui se met en mode patron. Les supporters dans les stades, rien ne va plus. On reviendra sur ces grabuges en tribune concernant le championnat de France, la Ligue 1 qui est la Ligue 1 Uber Eats. Et coup de tonnerre, eh ben oui, aussi du côté de Madrid en Champions League, le fil rouge de la soirée avec les Lillois, faut pas les oublier dans cette fameuse Champions League édition 2021-2022. Place au JT Sport de Jason et Gogo Time Sport.
Time Time Sport.
Bonsoir à tous, on démarre le JT Info bien évidemment par l'affiche Paris Saint-Germain-Manchester City qui a réuni hier soir sur Canal+ plus de 2,19 millions de téléspectateurs. Il s'agit bien sûr du meilleur score et de la meilleure audience pour la chaîne depuis le début de saison. On connaît également la date de cérémonie du prochain Ballon d'Or 2022 qui se déroulera donc sur Paris le 29 novembre prochain au Théâtre du Châtelet. La liste des joueurs nominés quant à elle sera dévoilée en amont le 8 octobre. Une rencontre de gala sera programmée entre le vainqueur de la Copa América et le vainqueur de l'Euro respectivement Italie et Argentine pour un match en hommage également à Diego Armando Maradona, bien sûr, idole des deux nations. Et enfin, Arsenal qui annonce l'absence de Granit Xhaka jusqu'en 2022. Le milieu de terrain suisse touché au genou face à Tottenham devra subir une opération dans les prochains jours. C'est tout pour ce soir. En vous souhaitant une bonne émission avec Bilal Nelman et toute l'équipe Time Sport.
Allez, c'est parti. Bonjour, cette émission. Justement, c'est parti avec Yasmine qui est avec nous ce soir, voilà, pour m'accompagner durant une heure dans cette émission. Comment ça va, Yasmine?
Ça va super.
Ouais. Merci. Ouais, le sourire. Ouais, et la victoire aussi du Paris Saint-Germain hier soir.
Ouais, je suis hyper contente, bien sûr.
Ah ben ça, c'est super. Tout comme Abdel qui est avec nous ce soir. Comment ça va, Abdel?
Très bien. Bonsoir à toutes et à tous. Moi, je suis pas hypocrite, je suis très content.
Ah ben il est très content. Eh oui, du magnifique but peut-être, comme Louis-Marie qui est avec nous. Comment ça va, Louis-Marie?
Ouais, ça va très bien, très content d'être là. On va pouvoir débriefer une belle victoire du PSG et pas forcément que le but de Messi.
Ah oui. Yacine est avec nous. Comment ça va, Yacine? Ça va bien? Hier, tu étais du côté du Parc des Princes. Eh oui.
Bah oui, après.
Il y a eu du bruit.
Après, quand j'entends
y a eu des buts.
La belle victoire du PSG, ouais. Je pense que, à moins que les gens à la télé ils voient d'autres images.
On va voir, on va revenir sur cela.
Mais City avait pratiquement 70% de possession de balle.
Ouais.
Tu t'enflammes, Yacine.
Voilà, ouais.
Peut-être le PSG a bien géré le jeu. Après,
ouais.
Après quand vous avez dans votre équipe un joueur qui se nomme Lionel Messi, j'ai l'impression que c'est ça les vrais grands joueurs.
Ah bon, on va arriver sur ce Léo Messi et aussi le Paris Saint-Germain, sans oublier Nicolas Vidal. Oui, de retour dans cette émission. Comment ça va, Nicolas Vidal? Chez nos confrères Push Media.
Exactement, je suis en revenant, c'est le moment que je suis pas venu sur le plateau.
C'est vrai.
Je suis très heureux d'être avec vous ce soir.
Ah ben nous aussi,
et,
Nico.
Je vais être une nouvelle fois ce soir dans le camp des dissidents, des discordants. C'est parti, une heure de dissidence.
Ah ben c'est promis, on y va.
Time Time Sport. Le duel.
Le message fort de Nasser El Khelaifi sur Léo Messi. Eh oui, il est très très fort. Nous avons le meilleur joueur du monde en France. Bravo Messi, bravo le Paris Saint-Germain face à Manchester City. Eh oui, l'une des meilleures équipes européennes, Louis-Marie.
Oui, bah là, il va falloir juste arrêter de ne parler que de Messi. Cette victoire pour moi, c'est avant tout celle du collectif parisien.
Ouais.
Qui a bouffé vraiment Manchester City, qui a pas eu d'occasion. Enfin, moi, j'ai pas beaucoup vu Manchester City être dangereux. Un peu en
premier, on a vu.
Bouffer le PSG, j'ai l'impression qu'il faut que tu changes de marque de télé. Hein.
Ah bah écoute, en tout cas, moi ce que j'ai vu, c'est City. Moi ce que j'ai vu, c'est que City n'a pas d'occasion. On est encore dans une équipe de Guardiola qui fait tourner la balle et qui a pas d'occasion, qui tourne autour de la surface. Donc oui, ils ont eu cette double occasion où de toute façon Bernardo Silva était hors jeu, donc il y avait pas finalement de danger. Bref, tout ça pour dire que on parle beaucoup de Messi. Moi, ce que j'ai vu hier, c'est que enfin, on a eu un milieu de terrain parisien qui était à la hauteur de l'Europe. Et ça, c'est assez nouveau. On a vu un très gros match de Gueye et d'Herrera. Alors, je dis pas que ce sont eux qui vont être les titulaires tout au fond de l'année. Je parle même pas de Verratti qui a été énorme, bien évidemment.
Ouais,
mais les trois joueurs ont eu une vraie complémentarité et un Gueye qui est énorme. Donc moi, avant de parler de Messi, je sais qu'on va beaucoup en parler, je voulais souligner que les autres étaient là. qu'on a vraiment une équipe qui a été solide défensivement, et j'y croyais pas ces dernières semaines. J'avais dit que moi, cette équipe en 4-4-2, j'y croyais pas, parce que sur les côtés, ça me paraissait trop faible. Je me suis trompé, je suis content de m'être trompé. On voit que Hakimi et Mendes ont bien tenu défensivement, et qu'au milieu, ça a super bien marché. Ouais. Donc, je les félicite.
Voilà, nous dit que, justement, qui nous écoute ce soir, Titi a tiré trois fois plus que le Paris Saint-Germain au but.
Et il est encore gentil.
Il est gentil, enfin, voilà. Ouais, bon.
Ouais, non, par rapport à.
Allez, Abdel, allez, Nicolas,
pour compléter ce que dit Louis-Marie, c'est vrai que. Sur les dernières semaines, quand Paris aborde le match face à City, tu te dis que ça va être très compliqué. Après, comme souvent, Paris, dans ses phases de poule, arrive à sortir un bon match hier quand même sur les dernières prestations qu'on a vues. Le milieu de terrain était très important. C'est vrai que c'est pas forcément Messi, parce que oui, c'est un génie, mais un but exceptionnel. Mais c'est vrai que collectivement, mais pas que dans les efforts, etc., le poste que Verratti a occupé hier, je pense que depuis que Thiago Motta est parti du club, c'est là qu'il aurait dû être positionné, parce que on parle beaucoup ces derniers temps du fait que Paris n'arrive pas à sortir de la pression, à créer des décalages, à avoir la possession au milieu de terrain. Mais vu qui était mis devant la défense, c'est normal que ça ait pas marché hier. Verratti rentre.
Verratti, on le rappelle, 42 passes réussies sur 45 en même.
Oui, au bout de pas mal. Non, mais au bout de deux minutes, on aurait dit qu'il faisait comme le premier match qu'il a fait en Ligue des Champions face à Kiev quand il est au PSG. Il était très serein. Et après, voilà, il y a eu beaucoup de complémentarité. J'ai vraiment apprécié le match. Et après, pour tous ceux qui pensaient aussi que Paris devait jouer à 3 parce que Nuno Mendes et Hakimi, c'est des pistons, etc., je trouve qu'ils ont très bien tenu leur rôle. Et par rapport à Donnarumma, je complète sur ça. Ouais. C'est vrai que il a fait aussi son job par rapport à premier match de sa jeune carrière en Ligue des Champions. Il a fait son job.
Et tu appréhendais, Abdel, justement.
J'appréhendais, oui. Après, par rapport à ce que dit Louis-Marie sur les occasions, il y a eu des tirs, peut-être pas très dangereux, mais il y a eu des situations et des frappes qui ont pu alerter. Mais après, voilà, ils n'ont pas été dangereux forcément. Et
en
ça,
deuxième mi-temps, moi, j'ai pas eu peur une seconde.
Gay a expliqué que ils avaient pas peur parce qu'en gros ça changeait de côté, voilà, ça tournait, etc. Et eux, ils avaient qu'à fermer l'axe. Donc je sais pas si c'est un plan de Pochettino et qu'il a gagné une bataille contre Guardiola, mais franchement c'est à mettre au crédit de l'équipe qui a fait un bon match.
Yacine, Yasmine et Nicolas.
Il a parlé, mais la bonne parole qui est pour moi, hein, pour
alors,
sensé, c'est Pochettino.
Pochettino, selon toi,
c'est Pochettino qui a gagné le match, c'est personne d'autre.
Ouais, entraîneur.
De Gay ou de Verratti, ils se sont fait manger au milieu de terrain.
Gay et Verratti, 44 passes réussies sur 48 pour lui.
Pochettino n'a pas commis l'erreur.
Mais moi, j'ai parti.
Laisse-moi finir. Ouais.
Alors, vas-y, on va te laisser finir.
Pochettino n'a pas fait l'erreur qu'il a commise lors du match précédent avec contre City, parce qu'il savait qu'il ne pouvait pas rivaliser dans la possession de balle, c'était impossible. Donc certainement il a donné des consignes à ses joueurs de pouvoir défendre très bas. Sur le plan de la construction de jeu, Guardiola a donné une leçon de football. À un moment donné, on avait l'impression que jouer contre une équipe de Ligue 2 française.
On a vraiment l'impression que vous n'avez pas les mêmes téléviseurs. Yacine, Abdel.
Non, mais je suis sérieux.
Yacine, il est au stade. Voilà, Yacine, il est au stade. C'est vrai. C'est vrai, Yacine.
Donc,
mais bien sûr, on va revenir
aux actions.
Dans le domaine technique.
On parlait de Mendes, il a fait. Mahrez, on a fait un boulevard.
Ah bah on va revenir sur Mahrez.
Il a au moins une vingtaine ou une trentaine de fois, il a pu déborder.
Ouais.
Malheureusement, les balles peut-être ne sont pas arrivées, il n'y avait pas eu d'application. Parce que si sur la dernière passe, il y avait de l'application, je pense que ce soir, à cet instant-là dont on parle, je pense que beaucoup de monde n'oserait pas dire un seul mot. Parce qu'il faut juste revoir le match pour comprendre que City. Et ils ont mangé le milieu de terrain de
certains de auditeurs sont français. D'accord avec toi.
Il a fait une frappe par hasard. Pour moi, le meilleur joueur parisien, le joueur décisif, c'était Kylian Mbappé.
Sur
deux chiffres de Mbappé, le PSG a marqué 2 buts.
Ouais.
Les autres, ils ont fait de la figuration, tout simplement.
Ouais.
Les 45 passes de Verratti dont tu me parles,
ils ont
fait des passes latérales. C'est pas du football, mon ami. D'accord ?
Yasmine.
Voilà, donc on peut se faire les passes entre nous.
C'est toi, Yasmine, qui le dit.
Les passes réussies.
Ouais, les passes D. Allez, une à Yasmine. Allez, vas-y, Yasmine. On va voir aussi Nicolas, on va voir ce qu'il en pense.
Donc c'est vrai, c'est une belle victoire collective du Paris Saint-Germain.
Oui, pour le football français aussi.
Je pense que vous vous enflammez un peu trop pour le PSG. Mais ça, c'est juste.
S'enflammer dans quel sens ? Ah bah vas-y, laisse-la terminer.
La vraie question aujourd'hui, c'est est-ce que Messi, c'est la bête noire de Guardiola ? C'est ça le début de la question. Ouais. Pour moi, oui. Là, c'est la septième confrontation avec avec Guardiola.
Et Messi,
du
c'est
coup,
vrai
on
que
a, Messi a marqué 7 buts. Là, face à son mentor, pour moi, c'est exceptionnel. Il a évolué quand même depuis jusqu'à, je crois, 2019. Non, il a fait 219 matchs, pardon, sous Guardiola, 211 buts, 92 passes décisives. Pour moi, il a été énorme et ça a été son premier but en Ligue des Champions. Donc là, je pense que c'est plus ça à relever que la victoire du PSG en Ligue des Champions.
Des petites infos.
Pendant 30 secondes.
Ouais, selon Foudine, notre rédacteur, Lionel Messi et Karim Benzema, Yasmine, sont devenus les deux premiers joueurs de l'histoire à inscrire au moins un but lors des 17 saisons consécutives en Champions League. Tout de même, c'est assez fort. Ouais, on en parlait avec le mari. Nicolas.
Ben, je pense qu'il faut avoir, il faut savoir raison garder sur ce match hier soir. Je partage
alors,
un point.
Ouais, avec Yacine.
Il y a une question à vous poser. Le match de Bruges, c'est un match amical ou ça se passe en fait?
Non, Nicolas, quand même. Mais non.
On a vu que Bruges était une bonne équipe, Nicolas. On les a vu hier, c'était une super équipe.
Ouais,
ils avaient été au rapport de 1 x 100 ou 1 x 200. Je veux dire, par là, c'est que hier soir, moi, je suis pas. Je pense qu'ils ont gagné, tant mieux. C'est une bonne chose pour le Paris Saint-Germain, bien entendu. Mais on a vu quand même, à un moment donné, City mettre énormément de pression.
Mais on s'y attendait à ça. C'est tactiquement ce à quoi on s'attendait.
À un moment donné, il y a eu des éclairs de génie. Je pense qu'effectivement, je rejoins Yacine Latour. Je suis pas aussi dur que lui Latour.
Ouais.
Mais je pense que quand même, il y a eu quand même une excellente résistance de Manchester City. Et moi, j'ai vu quand même des phases de jeu en petites touches qui remontaient très très vite le ballon. Et bien entendu, devant, nous avons Kylian Mbappé qui peut, à un moment donné, faire un match. Il fait le match, Kylian Mbappé.
C'est lui qui a fait le match.
Après, on verra l'état d'esprit, la psychologie de Kylian Mbappé. Parce que je continue à dire qu'il y a un gros dossier sur Mbappé. Et Mbappé, à mon avis, va partir incessamment sous peu. Il y a quand même une guerre d'égo aussi. Rappelez-vous de Messi qui est sorti récemment.
Oui, Nicolas.
Même pas, qui n'a pas dénié saluer son entraîneur qui est sorti.
Non, mais là, c'est un autre problème, Nicolas.
On est d'accord.
Je te rejoins qu'il y a plein de nids de problèmes dans ce club.
Ça se finit là-dessus. Je pense que le projet de QSI aujourd'hui est uniquement fixé sur Mbappé. Ils font tout pour le garder.
Mais ils ne le garderont pas.
Voilà, ils ne le garderont pas.
On est
et d'accord. Je pense que c'est pour ça que le PSG, je ne suis pas convaincu avec le match contre Bruges où ils ont été beaucoup en difficulté, même si je suis d'accord avec toi, je te rejoins. L'équipe de Bruges était flamboyante. Moi, j'ai beaucoup aimé. D'ailleurs, je vais les
ils
suivre.
Ils ont très bien joué hier.
Je vais les suivre.
Ouais.
Mais je pense qu'il faut quand même, à un moment donné, les supporters rester sereins.
Bien sûr.
Surtout
la presse française. Moi,
je m'enflamme pas sur le projet QSI
de Gay
où je suis d'accord.
On est la presse française aussi.
Du milieu de terrain. Alors que quand on regarde le match, moi, je ne trouve pas, je le trouve juste tout simplement un joueur ordinaire.
Merci.
Tout simplement.
Je rejoins Nicolas sur le projet QSI.
Ouais,
moi, c'est pas ce qu'on m'a demandé de commenter. On m'a demandé de parler du match d'hier. Moi, sur le match d'hier, une fois, pour moi, le football, c'est pas la possession de balle. Si on est d'accord que le PSG, s'ils avaient voulu jouer à ça contre City, à se dire on va avoir la possession, on va les prendre là-dessus, ils avaient aucune chance. Ils avaient un plan qui a très bien marché parce que leur transition rapide vers l'avant fait très très mal à City. Le deuxième but, ça n'est que ça. D'ailleurs, on parlait de Messi. Messi, c'est un éclair. Il a très bien compris comment jouer les équipes de Guardiola. Il les a pris dans la profondeur sur un ou deux coups et ça a très bien marché. La réalité pour moi, c'est que, City, il y a une maîtrise au milieu. Ils se font des passes alors. Ça me fait marrer quand Yacine nous explique que les passes vers l'arrière, ça marche pas. City, c'est que les passes entre les milieux, ça prépare pendant trois plombes, ça fait des passes de
rugby. Et ça ne
va jamais vers l'avant. Ils sont peut-être dans la surface du PSG, mais. Pour combien d'actions dangereuses? Je me répète, hier, il n'y a pas eu d'actions dangereuses. Et c'est le gros problème de City. C'était la même chose
dans la finale. Ils ont été maladroits, City.
Ouais, Nicolas.
Ils n'ont pas eu de chance.
Je ne suis pas d'accord.
Alors, il n'est pas d'accord, Abdel.
À chaque fois, c'est jamais la victoire de Paris. À chaque fois, c'est maladroit, ils n'ont pas eu de chance. Malheureusement, il y avait un plan de jeu de Pochettino qui a fait que.
Je suis tout à fait d'accord avec toi.
Qui fait que. Il a fait en sorte que Guardiola écarte le jeu, etc., qui que des passes comme ça dans le couloir pour aller frapper sur le côté, etc. Pour moi, je suis pas.
City n'a pas un avant-centre-type.
Non, mais ça n'a pas un
avant-centre-type.
Non, mais
c'est vrai.
Mais ça, c'est un choix parce qu'il a toujours joué avec défaut numéro 9. Maintenant, je m'enflamme pas, mais pour répondre à Nicolas, en fait, si tu fais match nul contre Bruges, mais que tu arrives à exceller contre City, qu'est-ce qu'il faut se poser comme question après Paris, attention, parce que
ils ont le melon, c'est
non
ce
mais
que tu dis.
Non, Paris n'a pas le melon. En fait, ils travaillent très, ils travaillent bien dans ce genre de match-là, parce que ça a été pareil contre le Bayern, ça a été pareil contre le Barça. C'est une équipe qui maintenant, je pense que Pochettino, même s'il a pas énormément de qualité, ça, il a compris que
il était.
C'est même pas de la transition, parce que en plus là, tu récupères Verratti, mais pour moi. Ouais. Paris, son seul adversaire, c'est eux-mêmes, peu importe Guardiola, peu importe Klopp, peu importe ce que tu veux.
C'est lui-même aussi.
Sur le premier but, faire une erreur défensive de marquage à ce niveau-là pour les défenseurs de City, c'est juste gravissime.
Le foot, c'est vrai, mais
Yacine,
c'est vrai, mais il faut être là.
Le football, il n'est que des erreurs. Il y a rarement des buts sans erreur défensive. Il y a toujours une faute de placement.
À ce niveau-là, j'ai toujours qu'on fait juste finir.
Ça finit, Abdel, on l'écoute. Avant de parler de Verratti, oui, Abdel, rapidement.
On parlait de Bruges. C'est vrai que hier Messi a été beaucoup plus discret dans le jeu, alors que contre Bruges on a beaucoup dénaturé le jeu du côté PSG à vouloir le faire briller, etc. Donc hier, et le fait que Messi soit beaucoup plus effacé et qu'on l'attende sur des exploits, pour moi ça a beaucoup permis à Mbappé et à Neymar de se libérer. Donc je trouve que c'est pour ça aussi qu'on a gagné.
Je sais pas si
non, se libérer entre guillemets, toucher plus de ballons, même s'il a eu beaucoup de déchets. Oui, beaucoup de déchets.
Il n'a pas été bon, mais c'est vrai qu'il a eu des situations et lui, pour le coup, n'a pas été bon. Mais là où je rejoins tout à fait aussi Abdel, c'est que Messi aujourd'hui n'est plus un joueur capable de jouer 90 minutes à fond. C'est un joueur de coup.
Ouais.
Donc il faut le mettre en situation de dire bah voilà, tu ne t'occupes pas du ballon, tu regardes ce qui se passe et dès que tu as une occasion, là tu fais mal et tu piques.
Peut-être que les marques de télé l'ont montré quand il y a eu le deuxième but de Messi à la 73e ou 14e minute. Verratti est venu dire
on va parler de Verratti
et lui dit comme ça, je peux plus. Il faisait comme ça, sors-moi, je peux plus. Et là, tu démontres qu'il a énormément souffert.
On se rappelle des
face
images.
Face à un milieu de terrain qui lui a le très haut niveau, c'est quoi ?
C'est réel.
Je vous assure.
Ça rappelle plutôt le système mis en place.
Un match retour.
Ouais.
Rappelez-vous bien. Yacine. Parce que s'il joue de la même manière le PSG contre City, je te promets.
Yacine, si tu l'as vu, moi je n'ai pas vu. Mais en tout cas, ce que tu me fais. Non. Mais ce que tu me fais comprendre là, c'est que en 2006 ou en 2007, voire 2008, je ne sais plus, quand Arsenal rencontrait le Barcelone, c'était Bakary Sagna ou encore Kishi Abdel qui disait je ne peux plus, j'arrive plus à suivre. Le système de jeu mis en place par Pep Guardiola à cette époque, c'était trop.
Non mais
intense. Tout est calculé au millimètre. C'est ça, Abdel.
On dira la même chose. C'était l'an dernier. On a tout dit.
Bien sûr.
L'an dernier, City n'a peut-être pas gagné les championnats parce qu'ils n'avaient pas de numéro 9. Cette année, ils avaient un poste à combler, ils l'ont pas fait.
Merci. L'équipe Time Sport, une courte pause. Voilà, avec les auditrices et les auditeurs, vous restez bien à l'écoute de Beurre FM. On revient vite, rapidement avec Marco Verratti. Voilà.
Time Sport revient dans un instant. 20h, 21h, Time Sport avec Bilal Nenman sur Beurre FM.
Et de retour sur l'antenne de Beurre FM, toujours en compagnie de Nicolas Vidal, et oui, avec nous, qui fait son retour.
C'est le Yasmine. Combat, c'est pas le jubilé.
Ah, c'est ça, c'est pas le jubilé de JPP, c'est non.
Ni d'Abdel. Il est pas prêt Abdel,
il est avec nous aussi. Ah oui, toi aussi, tu l'as fait le jubilé. Du côté de Boufarik. Boufarik nous écoute ce soir, et vraiment, un plaisir. Voilà, d'avoir un peu des personnes, des auditrices et des éditeurs à travers le monde. Louis-Marie est avec nous. Petit clin d'œil aussi à la baie de Toulon. Voilà, on se comprendra.
La rade, c'est
la rade, la rade, la baie. La baie, non. C'est plutôt du côté des de nos voisins. Ouais, la baie américain, mais bon. Et Yasmine est là. On a parlé du Paris Saint-Germain. On va s'attarder sur ce
Marco Verratti.
Le
Hibou.
Non.
Le Fury Class.
Voilà, on y va.
Time Sport. Le sujet des sociaux. Sujet
vas-y, Abdel, fais-toi plaisir.
Non, plaisir, très content de le revoir sur les terrains. C'est vrai que malheureusement, il a pas beaucoup de chance quand il va en sélection, il se blesse souvent. Hier, quand il est revenu sur le terrain, au bout de deux minutes, on a vu que, pas qu'il avait rien perdu, mais qu'il était, c'était un Verratti des grands soirs. Franchement, il rassure énormément. C'est quelqu'un qui a pas peur de jouer au foot. C'est bête de dire ça, mais maintenant, à ce niveau-là, on cherche beaucoup la facilité. Et un joueur comme ça, ben c'est un plaisir de le voir jouer comme ça. Moi personnellement, je suis fan, même si je regrette qu'il soit blessé. À chaque fois, on se dit qu'on va être plus dur avec lui, mais il arrive à remettre tout le monde d'accord. Oui, ça c'est bon. Ça après.
Il faut qu'il ait une hygiène de vie un peu plus.
Si vous allez en soirée sérieuse avec lui, vous me direz, je viendrai avec vous. Mais plus sérieusement, franchement, voilà, il est très élégant. Il apporte une confiance supplémentaire à ses partenaires. Hier même. physiquement pour un retour, lui qui est pas connu pour être un monstre physique, il s'est donné, il a donné pour ses coéquipiers. Et comme je l'ai dit tout à l'heure en introduction, le mettre devant la défense est sûrement le meilleur poste là où il est le plus fort, parce que c'est quelqu'un qui sait ressortir les ballons. Et hier, ça a permis à un joueur par exemple comme Messi de jouer beaucoup plus haut et de pas venir décrocher et pas d'amener un trop gros nombre de personnes au milieu de terrain. Et voilà, y a rien à dire. Hein. On voit que c'est un joueur de qualité, un merveilleux joueur.
Il revient bien, Yasmine. Marco Verratti, alors avec toi.
Pour moi, les grands joueurs aiment les grands matchs. Son seul défaut finalement à Verratti, c'est d'être souvent blessé, parce qu'il a été extraordinaire.
Malheureusement.
Là, par contre, donc, je suis pas d'accord avec Yacine, c'est que.
Ouais. Alors avec là, Yacine.
Ça va chaud là.
Oui. Non. Vas-y.
Elle a le droit. Hein,
c'est la démocratie. Oh, Yacine.
Non. Verratti était là, donc le PSG a fait un bon match, mais si Verratti n'est pas là au match au retour, je pense que l'image du PSG sera différente.
Non, mais après, on peut pas imaginer pourquoi il n'est pas là. Et puis,
je termine sur Verratti, même si c'est un Parisien, il faut pas oublier que c'est lui qui a fait la passe à Messi avant qu'il fasse l'1-2 avec Mbappé. Donc, il est hyper important dans le système. Il est super important dans le système.
Là, le PSG l'a placé en ce qu'on appelle en Italie un regista. C'est-à-dire un 6 meneur de jeu.
Oui, le Marais.
Et ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas vu depuis longtemps. Finalement, le dernier à avoir joué comme ça, c'était Pirlo à la Juve. Mais moi, alors effectivement, il a fait un bon match, tout ce qu'on veut. Je suis assez d'accord avec Abdel. Mais moi, j'oublie pas une chose, c'est que pour que quelqu'un puisse jouer en régista, c'est-à-dire en 6 reculé qui fait meneur de jeu, donc qui oriente le jeu, il faut être protégé par deux gardes du corps. Ça ne marche, ce système, que quand on a 2-8 qui défendent et qui ont un gros volume de jeu. C'était le cas à la Juve quand je parlais de Pirlo. Et c'est un peu le cas aujourd'hui avec deux joueurs de devoir devant lui. Alors, c'est pas des grands footballeurs, c'est pas des génies du jeu. Très bien. Mais c'est les joueurs qui couvrent le ballon et qui le
très
protègent.
Très intéressant,
et qui
le Marais.
Avoir de l'espace pour orienter le jeu et pour avoir ses premières passes. C'est le travail qu'on fait ensemble, Gueye et Herrera hier. C'est pas des grands joueurs, mais ils ont fait le boulot, ils lui ont permis de jouer dans des bonnes conditions.
Ils ont fait que ça.
Alors,
ils ont fait que ça pendant 80
minutes. Mais c'était leur rôle.
Nicolas et Abdel, on vient à vous. Marco Verratti.
J'admire Verratti. Malheureusement, il a eu 2-3 saisons compliquées. C'est un joueur que j'admire beaucoup. Pourtant, j'aime pas. Vous savez, je suis un peu ni Dieu ni maître, moi, comme garçon. Mais c'est vrai que sur un terrain de football, j'aime beaucoup Verratti. Après, peut-être que son rythme de vie aussi fait qu'il peut pas être toujours performant. Et il a cette formidable capacité à défendre de façon très précise et surtout. Tu l'as dit, d'ailleurs, c'est Régista que j'aime bien. Ça, la définition, vous la trouverez dans Football Manager, pour ceux qui connaissent. Et il a cette capacité à organiser le jeu, à lancer de très loin ses avant-centres, ou du moins ses ailiers. Et je trouve effectivement qu'il est très, très pestu. Mais encore faut-il que Marco Verratti soit en forme, et qu'il puisse éclairer le jeu du Paris Saint-Germain. C'est vrai que c'est un. Ouais. J'aime bien. Donc, je ne l'aime pas autant que mes petits chouchous animaux olympiques, Yacine Benraou ou Renaud Ripert, qui est parti à 3 depuis. J'aime beaucoup
Marco
Verratti.
Mais s'il en forme 20 matchs par saison, c'est bien. Oui. S'il est en forme 20 matchs par saison et que ce sont les 20 bons matchs, il n'y a pas besoin de plus.
Si t'as 63, c'est vrai que ça fait un tiers.
Et l'important, c'est d'être là dans les grands matchs.
Si alors, c'est la fête foraine, c'est compliqué, quoi. C'est pareil.
Moula nous dit que Gueye,
le monstre.
C'est ça, le monstre. Abdel, allez, avant le processus.
Pour compléter ce que dit Louis-Marie, c'est vrai que tu parlais de Pirlo qui était le dernier à avoir joué dans ce registre, mais. Contrairement à Pirlo, Verratti ne tire pas, et le fait d'avoir Herrera et Gueye qui grimpent beaucoup parce que ça permet d'avoir des solutions de soutien pour les attaquants au niveau des frappes, c'est ça qui est intéressant. C'était juste le point que je voulais soulever. Après, Gueye, hormis son but, c'est vrai que défensivement, c'est un peu ce pourquoi il avait été recruté et ses qualités qu'il avait notamment à Everton. Et c'est un vrai chien, on va pas se mentir, c'est comme ça qu'on va parler.
Depuis le début de la saison.
Oui, et puis il comble les trous, c'est quelqu'un qui est partout, qui a un gros volume de jeu. On est d'accord que c'est pas le plus grand technicien, mais.
Tu es de Marseille, mais tu es porteur de Paris.
Alors, non, moi ce soir c'est Malmo.
Ibrahimovic dans le dos.
Ah, c'est ça.
Bilalovic, on a beaucoup.
Quand j'écoute autour de la table, j'ai l'impression que Verratti a inventé le poste de milieu défensif, ce qu'on appelle aujourd'hui box to box.
Ouais,
non, justement.
Il a fait un bon match hier soir. Après, Herrera, on parle de Gueye.
Ah oui, mais il y a toujours des stars quand même à Paris.
C'est des bons joueurs de football.
Ce sont des porteurs d'eau dans cette équipe.
Ce sont des bons joueurs de football.
C'est ça qui permet aux autres de s'exprimer.
Non, Nicolas.
C'est peut-être des porteurs de bière.
Mais Nicolas. Mais tu vois, arrête Yacine. Tu vois le mari encore. Non.
La bière, elle est fabriquée à base de blé.
Mais
le blé, ça veut dire beaucoup de choses.
Ok. Ouais.
Je peux te dire mon avis.
Mais rapidement. Après, tu vas me parler aussi du pain Kabil.
Verratti, c'est un bon joueur de foot, tout simplement. Voilà. C'est comme Gay, comme Herrera. C'est des bons joueurs de foot. Tout simplement. C'est pour ça qu'ils sont à Paris.
Nouveau sujet. Allez.
Sport. La troisième mi-temps.
Eh oui, une grosse troisième mi-temps en compagnie de Nicolas, de Yasmine, Abdel. Il sourit, je sais pas qu'est-ce qu'il regarde sur les réseaux sociaux. Louis-Marie et Yacine. Justement, c'est bien qu'il y ait Yacine, Louis-Marie ou encore Nicolas. Oui, concernant ces incidents dans les stades.
Moi, j'aime bien les
Ah, ben oui. Ah, ben là, c'est. Non, c'est Elin, là, Abdel.
Et d'ailleurs, l'un des plus grands entraîneurs du football français, je sais. Nico doit le connaître, Kadhafi Roud.
Ah, ben oui.
Ben Nico, on n'est pas. Non, il fallait faire une spéciale alors. Mais non, pas encore.
Pas
lui, encore.
Parce qu'il parle et je ne connais pas Kadhafi Roud, c'est qui ouais, c'est, pratiquement, c'est, je peux dire, c'est l'un des pères du football français.
Ouais. C'est un monument. Je te crois.
Voilà. C'est un monument.
Yacine, honnêtement,
c'est un monument
je te
du football français. Ouais.
Hein. Je voilà. te crois.
Et je
respect à lui.
Et je suis fier.
Vraiment.
Il vient de l'autre côté de la Méditerranée. Il est chez moi. Il est algérien.
Il aime bien voyager aussi, Yacine, on doit le rappeler.
Et c'est lui. Après l'indépendance de l'Algérie, il a été pour beaucoup
Yacine,
du football algérien. C'est
qui...
un grand homme à qui on rend hommage derrière cette parenthèse.
N'est-ce bien pas sûr, tu le fais bien, et tu le fais bien, et il te suit aussi, Nicolas.
C'est un grand
Vous
club.
Avez bien raison,
c'est
messieurs.
Un grand club, le Nîmes Olympique.
Et je dis pas le contraire, vraiment.
C'était on va parler de supporters, c'est un vrai supporter.
Un petit clin d'œil au Croco de Nîmes. Deux matchs à huis clos, Louis-Marie, au Stade Bollard, les supporters mécontents. Eh oui. Et la France, du football aussi.
Mais quand est-ce qu'on va taper fort?
Ouais.
À un moment donné. Non, mais quand est-ce qu'on va taper fort?
Laisse le terminer, Yacine.
Moi, c'est pas le collectif. Il y a un moment donné. Moi, je pense que maintenant, on a quand même les moyens de repérer qui sont les fauteurs de troubles.
Oui, avec tous les moyens que l'on a.
Et des vraies sanctions. Le Niçois qui arrive pour taper un joueur de Marseille, la fois, il a pris quoi?
Ouais.
18 mois d'interdiction de stade. C'est une blague. En Angleterre, il ne reverrait plus un stade de sa vie.
Bah,
il y a un moment donné,
sûr.
Tant qu'on ne sanctionnera pas les clubs, tant qu'on ne sera pas dur, de quoi ils ont peur, les supporters? C'est que leur club perde des points. Moi, je suis pas souvent d'accord avec Colas parce qu'il joue toujours juste pour son équipe. Mais la réalité, c'est que là-dessus, il a pas tort. C'est que tant qu'on n'enlèvera pas des points aux équipes, qu'on les sanctionnera pas lourdement, les supporters continueront à se comporter n'importe comment. Il faut faire mal au club en termes de points.
Est-ce qu'on peut appeler ces gens-là?
Non, c'est même, tu as raison, c'est pas les supporters, c'est des voyous,
voilà,
des hooligans, c'est ce que tu veux.
Ouais.
Donc il faut les sortir des stades, les interdire de stade, sanctionner les clubs pour que les clubs fassent le ménage chez eux.
Je pense qu'il y a une sociologue parmi nous.
Ah ben justement, on va revenir avec notre sociologue du sport. Oui, Nicolas.
Je suis entièrement d'accord, je partage cette analyse. À un moment donné, il y a un laxisme. Qui laisse faire sur les terrains absolument n'importe quoi. Je suis aussi un supporter de football, j'aime le jeu, mais ça devient insupportable. Mais on va le dire, les instances du football ne sont pas connues pour leur courage quand il s'agit de prendre des sanctions.
C'est le moins qu'on puisse dire.
Ils ont même pas dit autre chose, les gens, mais les passes sanitaires, je suis désolé, à l'entrée des stades. Par contre, quand il s'agit à un moment donné d'identifier les gens fauteurs de troubles, c'est connu par les directions départementales de sécurité.
Ils sont tous connus.
Ils devraient pointer aux flics.
Il faudrait être
de préméditer 3-4 jours à l'avance à travers les réseaux sociaux.
Il devrait y avoir des poursuites
envers
les gens incriminés dans des violences qui peuvent. Je sais que le club que vous
stagiez, vous avez des caméras vidéo,
vous avez des cellules sécurisées. Donc on peut identifier ces gens-là. Et ensuite, effectivement, il faut aussi sanctionner les clubs sur ça, ou du moins sanctionner les supporters, parce que le retrait de points est extrêmement préjudiciable, bien sûr, au club. Et tu l'as dit, tu as fait ce lien entre ne pas vouloir perdre des points pour des supporters qui supportent un club.
Ouais.
Mais je crois que le laxisme aujourd'hui est un peu prégnant dans notre société.
Il vient là-dessus.
Et là, ça devient inqualifiable.
Et juste
on demande même une peine de prison et des retraits de points pour le club, carrément.
Il y en a, ils sont. Nicolas parlait de la Ligue de football qui est très courageuse. On peut aussi parler de la Ligue de rugby qui laisse passer des choses absolument scandaleuses et qui n'a sanctionné que de 26 semaines
des
propos absolument racistes, dégueulasses de Rado Stavevic il y a quelques semaines. Le joueur n'aurait plus jamais dû revoir un terrain de rugby. Il n'est sanctionné une demi-année.
Mais aujourd'hui,
c'est n'importe quoi. C'est une honte.
Le rugby,
d'insulter quelqu'un par sa race, c'est juste banal en France.
On se rend compte que ce joueur-là a juste le droit, a juste pu dire que son adversaire était un nègre mangeur de bananes.
Je sais, Louis-Marie.
Ouvrez les guillemets.
Il ne devrait plus jamais remettre les pieds sur un terrain de sport.
Ouais.
C'est tout.
Bien sûr.
Et c'est pareil pour les supporters qui font n'importe quoi dans les tribunes. Ce ne sont pas les supporters.
Yacine et Abdel.
Hier, j'ai vu une scène.
Alors laquelle?
J'ai pas beaucoup aimé.
Alors laquelle, Yacine?
Il y a un joueur que je ne vais pas citer son nom. Il a fait la collade à un joueur de City. Mahrez, il était juste à côté. Il a fait semblant de ne pas le voir. Ça, c'est pas bien. Ça, c'est pas bien du tout.
Bon, Mais comment ?
Je ne vais pas citer de nom, pour ne pas faire de rentrer
On rappelle que tu étais au stade, hein, c'est pour ça.
Non, mais c'est des choses qui à un moment, après tout, le football ou le sport en général, c'est...
Ça rassemble.
Ça rassemble.
Et c'est le reflet de la société. La société a des vrais problèmes en ce moment et on le voit dans le stade.
En Angleterre, après les incidents du Hazel, les Anglais, qu'est-ce qu'ils ont fait ? C'est clair. Tu fautes, tu interdis le stade.
Oui. Et puis, Yacine, ils ont augmenté les prix aussi dans les stades
anglais.
Ils ont sorti les hooligans comme ça, et en augmentant des prix prohibitifs pour éviter...
Mais du coup, les hooligans se sont déplacés en deuxième division et en troisième division.
Aujourd'hui, en France, il y a des groupes de supporters qui décident à la place des clubs. Ils ont même la billetterie entre leurs mains. Donc, à un moment donné, je pense que les autorités doivent réagir.
Justement,
je
ne veux
pas revenir sur les sanctions contre les supporters ou les hooligans, peu importe. Mais moi, le premier constat que je vois là, c'est que les incidents qu'on a vécu sont pour beaucoup différents. On a d'un côté un peu les bagarres entre les supporters et d'un côté on a aussi les jets de projectiles, par exemple, comme on a eu
à Marseille.
Entre Nice
c'est très dangereux d'ailleurs.
Exactement, entre Nice et Marseille. Donc, effectivement, de manière générale, le constat, c'est que c'est assez préoccupant, quand même. On ne sait pas ce qui se passe là, actuellement. Ce qui est certain, c'est que ce n'est pas un problème qui est franco-français non plus. Il y a des choses qui se passent de la même manière, des incidents qui se passent en Allemagne, en Angleterre. Donc là, le problème n'est pas vraiment français. La vraie question, c'est de savoir si, effectivement, ce n'est pas, on va dire...
Phénomène de société ?
Pas un phénomène de société, mais si c'est pas, on va dire, plutôt conjoncturel, c'est-à-dire que c'est... Est-ce que ça va pas plutôt se tasser, qui va se tasser un petit peu dans les jours à venir, dans les semaines à venir?
Il y avait des problèmes avant le Covid, non? Moi, je me souviens qu'il y avait déjà des incidents, c'est pas nouveau.
Avant le Covid, il n'y avait pas la jauge visiteur. Ça veut dire Les supporters adverses n'avaient pas le droit d'y aller.
Donc, on ne sait pas si justement c'est conjoncturel ou si finalement on va assister peut-être un peu à une radicalisation un petit peu de la part de certains supporters. Il faut savoir aussi que beaucoup de personnes ont été assez frustrées de ne pas pouvoir aller au stade.
Pendant longtemps.
Pendant un petit moment, à cause du Covid. Donc, il y a ce phénomène un petit peu là, un peu positif, où on assiste à de grosses ambiances dans les stades, notamment au stade Vélodrome, le meilleur stade. Bien sûr, de France et d'Europe.
Elle en fait la bise. Yasmine, tu ne peux pas faire ça. Mais Yasmine, tu vas me retourner le plateau là.
Je termine et on assiste aussi à des phénomènes.
La
qualifierie de Marseillais scunchi. Alors, laisse-la terminer.
Des phénomènes un peu négatifs avec justement ces violences-là. Donc, on n'a pas vraiment d'explication. Il y a plusieurs explications, mais une des explications, effectivement, c'est celle-ci.
Moi, j'ai peur que ce soit structurel.
Et on va terminer avec Nicolas.
Par rapport à ce que disait Yasmine, c'est vrai que. Au fur et à mesure, c'est facilement identifiable parce que c'est toujours des prétendus groupes ou individus de certains groupes
souvent les mêmes,
qui sont mis en avant pour ce genre de conneries. Après,
ils s'en cachent pas,
comme on l'a dit, ils sont pas supporters. Après, comme on l'a dit aussi, c'est vrai que on connaît que la Ligue n'a pas forcément de courage. Yasmine, elle parlait de...
Abdel, à un moment donné, on peut pas incriminer uniquement la Ligue.
Ça
devient un problème sociétal.
C'est vrai,
L'État, les pouvoirs publics devraient prendre aussi leurs responsabilités.
Mais la Ligue, c'est le représentant des pouvoirs publics dans le football.
C'est le ministère qui est représentant de l'État.
Par rapport à ce que disait Yasmine, c'est vrai que... Il y a des problèmes partout en Europe et même dans différents stades, mais en France, jamais on a une prise de décision qui fait, par exemple, avancer l'œil sur des choses qui pourraient être sanctionnées ailleurs.
Ce genre de truc en France.
Et il n'y a pas d'homogénéité, surtout dans les sanctions. On ne sait pas ce à quoi on s'attend. Un coup c'est lourd, un coup c'est pas lourd. C'est un peu à la tête du client.
La seule fois où j'ai vu vraiment, entre guillemets, les instances concernées, c'est, je crois, il y a deux ans, quand à propos des propos homophobes, etc., où là il y a une grosse campagne d'un trait, et je me demande pourquoi on n'en fait pas autant pour toutes les causes. Après, ça reste que ça reste que mon avis, parce que il y a des problèmes qui sont bien plus antérieurs à l'homophobie, par exemple, alors que ça, on a tout de suite voulu le couper.
Nicolas, rapidement, avant la dernière pause.
Je partage l'avis un peu de Yasmine là-dessus. Je pense qu'à un moment donné aussi, c'est structurel, tu as raison, mais je crois qu'il y a conjoncturel. Il y a une montée de la violence dans la société qui se retranscrit dans les stades. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il n'y a plus de barrière à la violence. C'est-à-dire que c'est la violence pour la violence. Et je pense que ça a été énormément accéléré aussi avec cette crise sanitaire. S'il n'y a pas que ça, hein, c'est pas la seule élément de réponse. Mais je pense qu'aussi, il faut se rendre compte, des amis, ce qui se passe depuis cette journée de championnat. Regardez ce qui se passe. On voit des choses, mais absolument inadmissibles, abominables pour l'esprit du jeu. Et même, regardez par rapport à Amazon sur les vidéos, sur les
rediffusions. Ouais, le genre américain.
Imaginez le spectacle que ça donne. Même Amazon, je crois que sur une séquence à Lens-Lille, ils ont coupé la caméra, je crois. Ils n'ont pas montré. Ça fait un mal terrible. Mais je pense que c'est un problème
d'autorité.
Et l'État, quand il veut taper, il tape dans ce pays. Il faut taper, il tape. Hein, alors ça, il y a
comme
pas
le
problème.
Pass sanitaire.
Merci Nicolas.
On va
revenir, c'est promis, avec le Real Madrid dans cette émission pour la dernière partie.
Time Sport revient dans un instant. 20h, 21h, Time Sport avec Bilal Nenman sur Beurre FM.
Et de retour sur l'antenne de Beurre FM, toujours en compagnie de Nicolas, de Yasmine, Yacine, Louis-Marie et notre Abdel.
Tu as failli dire Yasmine deux fois.
Non,
je te surveille.
Non, ne t'inquiète
parce que
pas.
Vous êtes marseillais.
Mais non. Je suis pas marseillais, je suis niçois.
Il a vendu sa carte. Ça y est.
On va s'attarder. On prend le.
Et en plus, il porte le maillot de FC Malmö.
Ah oui. J'aime beaucoup Zlatan, moi.
Un très joli but de l'Olympique de Marseille.
Rappelle l'été.
Malmö s'est quand même fait corriger 4-0 là.
Eh oui, face au Zénith.
Voilà, 4-0 avec un carton.
C'est ça, on aura les pronostics, c'est promis, de Lille versus Salzbourg, mais place au Real Madrid.
Time Sport, le mode pressing.
Une défaite, Yacine, historique, qui doit servir peut-être de leçon d'humilité. Eh oui, Madrid sous le choc après le revers face au Real, shérif, je dirais à Paul.
Alors,
justement, ça fait plus parler. Que dire ?
L'Oréal. Parce que pour toi, en Moldavie, on joue pas au football.
Non. Non. Je dénigre pas la Moldavie.
D'ailleurs, le nom shérif. Ça fait la loi. Quand on aura vu cette équipe jouer, on va comprendre pourquoi ils ont.
Ils ont secoué tous les médias espagnols.
Ils ont fait un très bon premier match.
Russes. Dès qu'il y a un club qui est organisé. Ils mettent des moyens, on assiste vraiment à de très 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 haut niveau et ils n'ont pas voulu leur victoire. Et souvent Madrid, quand ils trébuchent comme ça pendant les premiers tours, généralement ils arrivent en finale et ils la gagnent.
Moi ce que j'ai trouvé très intéressant hier, au-delà du fait que ça fait plaisir de voir un petit club qui sort de nulle part, enfin à peu près de nulle part, parce qu'on connaît.
Qui peut dire qu'il
connaît l'effectif du Sheriff Tiraspol ?
Non,
honnêtement,
un joueur.
Parce que c'est le frère de Vincent Hill.
Il a joué en France.
Non, mais pour de vrai, moi, ce que je trouvais hyper fort hier, c'est que quand tu suis le match, tu te dis, c'est bon, là, le Real a souffert, mais ils ont égalisé, il reste 30 minutes. Là, le Sheriff Tiraspol, ils vont en prendre 3, ça va être terminé. Et qu'est-ce qui se passe juste derrière ? Les mecs, ils n'ont pas arrêté de jouer, ils n'ont pas eu peur. Ils ont remis une couche, une deuxième couche, une troisième. Ils les ont mangés. Ça a été impressionnant parce qu'ils ont quand même marqué. Faut pas oublier qu'ils ont, avant de marquer le deuxième but, ils ont déjà marqué un but hors jeu. Ils ont vraiment eu des actions. Et mentalement, c'était très fort de reprendre le dessus.
Et là, parce que beaucoup de gens se sont.
Et puis le deuxième but est magique.
À Ancelotti. Voilà, mais là on va comprendre beaucoup de choses. Quand Zidane était à la tête du Real de Madrid, les turnovers qu'il faisait, ça avait beaucoup son sens.
Zidane est parti, on parle plus de Zidane.
Zidane n'est jamais parti.
Zidane est toujours là.
Si toi t'as décidé qu'il est parti, c'est ton affaire.
Mais non.
Zidane n'est jamais parti.
C'est Ancelotti maintenant. Il faut que tu tournes la page.
Il peut revenir à n'importe quel moment.
Est-ce que le Real Madrid a l'effectif?
Il peut revenir n'importe quand. Exactement, Sarkozy.
Nicolas.
Je t'aime bien, mais on compare pas les deux personnages.
Je savais que ça allait poil à gratter cette réflexion. Mais on est là pour ça.
Yasmine, plus sérieusement.
Mais est-ce que le Real Madrid a l'effectif pour aller beaucoup plus loin et vraiment sortir de cette poule finalement?
Oui. c'est pas vrai. C'est un, pour tout. Moi, c'est un accident et ils seront au rendez-vous des quarts, 20
du tout.
Je prends le pari aujourd'hui, je le pose là.
C'est pas le
ils seront au rendez-vous des quarts ou des demi,
c'est
sans problème.
C'est pas le premier accident.
Alors,
hein.
Ouais. Abdel, on l'écoute.
Abdel. Ils ont fait match nul chez eux.
On va écouter Abdel et Nicolas.
Par rapport à l'équipe, une équipe moldave, équipe, on va dire, équipe de l'Est. Et par rapport à. Je voulais faire un parallèle avec ce dont on avait parlé pendant l'Euro. Et j'en profite parce qu'il y a Yacine là avec. Quand on dit que des équipes comme le Danemark, etc., en sélection faisaient des différences parce qu'elles travaillaient bien, et ben là, c'est encore un beaucoup plus petit pays. Je pense que s'ils arrivent là, même s'ils n'ont pas connu ce genre d'ambiance et ce genre de compétition, je pense que c'est un travail de longue haleine. Ils doivent se connaître depuis un moment. Ils doivent avoir eu beaucoup, beaucoup d'automatismes. Et là, c'est un peu l'équipe du style qui n'a rien à perdre, qui vient. Mais par contre, ils produisent du jeu, ils se cachent pas, tu l'as dit Louis-Marie, ils vont à la guerre.
Ils ont plus contenté du 1 partout et c'est pas ça, du tout ce qu'ils ont
six,
fait.
6 points en 2 matchs, on va pas se mentir que même
ils ont
même,
battu le Shakhtar hein, premier ça, match, même, c'est fort le Shakhtar.
Attention, tu le dis bien et surtout que l'Inter dans ce genre de compétition là, ça fait 2-3 ans qu'ils viennent en Ligue des Champions, à chaque fois ils se cassent les dents mais le Sheriff Tiraspol, même si ils obtiennent une place en Ligue Europa, ils seront très contents. Mais en tout cas, c'est une belle équipe à avoir joué.
Samir qui nous écoute, notre consultant, quand il y avait Zidane, et oui, Yacine, il avait perdu contre le Shakhtar, aussi à domicile.
Bien sûr.
Ouais, il faut le rappeler aussi.
Et il avait gagné la Ligue des Champions.
Tu
dis ça à Samir aussi. Voilà.
Alors, Nicolas, avant de terminer l'émission.
Je suis heureux parce que il y a une question qui nous rassemble tous, c'est pourquoi on va voir un match de football? Pourquoi nous allons voir un match club? Parce qu'à un moment donné, on a envie aussi que le petit poussé, il mange l'ogre. Et c'est intéressant parce que des équipes comme ça, eh ben, elles tirent leur épingle du jeu. Le pognon ne fait pas tout. Alors peut-être que sur la longueur, on est d'accord. Il n'y aura pas le Sheriff Tiraspol contre le Bruges en finale des champions. On est d'accord.
Ouais, mais pourquoi pas?
Vous voyez, je vous vois, vous avez une banane, vous avez le sourire parce que les petits clubs, ils sont là au rendez-vous.
On prend du plaisir.
On est d'accord. Et c'est la grande force du football par rapport à tous les autres sports collectifs. Parce que c'est le seul sport du monde où n'importe qui peut gagner contre n'importe qui.
Le football a été tué, selon Nicolas.
Tué, regarde cette espèce de projet de super ligue.
On est d'accord.
Et un jour, ça arrivera sur la table. Même la Coupe de la Ligue ne peut pas nous faire.
Et l'on peint chaque semaine, Yacine.
Mais Platini avait essayé d'ouvrir
une super ligue africaine parce que ça va permettre d'élever vraiment le niveau du football africain.
Non, mais moi, je te parle de la Coupe de la Ligue Clermont-Ferrand contre Troyes ou Châteauroux.
Aussi.
C'est vraiment un niveau.
C'est intéressant de voir qu'un team.
Ça ne peut pas nous faire aimer le football.
On voit que quand on travaille bien, parce que globalement cette équipe individuellement, ça vaut pas mieux que n'importe quel club de Ligue 1, un peu de choses près. D'ailleurs, quand il était en France, il a pas eu le niveau. Et la réalité, c'est que en travaillant bien collectivement, en ayant des projets, on peut y arriver. Mais et c'est une leçon à donner à tout le monde.
En étant une équipe,
mais bien sûr, c'est ça. En étant
zéro associé avec des Lamborghini et des Duster.
Le monde change, Nicolas. Le monde change aussi.
Duster quand même. Ils roulent sur les. Ils arrivent au stade en
Trabane. Il faut mentionner quelque chose de très important, c'est que Madrid a égalisé sur penalty.
Même pas dans le jeu.
Pas dans le jeu.
Ça montre un peu de faiblesse.
Toute la difficulté. Du Real d'hier soir, dommage, je ne pouvais pas voir deux matchs en même temps, même si mon cœur était à Madrid. Mais quand j'ai le premier match de Tiraspol, de Sheriff Tiraspol, quand ils ont battu le Shakhtar, j'ai compris qu'ils pouvaient jouer un mauvais tour au Madrid.
Enfin, tu compares avec Bruges. On va juste remettre les choses au point. Bruges, il y a des joueurs exceptionnels dont je ne comprends pas qu'ils soient encore dans ce club. Je l'avais dit il y a deux semaines.
Qu'est-ce qu'il fait à Bruges?
Il a 29 ans. Qu'est-ce qu'il fait encore là-bas, 29 ans, alors qu'il est titulaire en équipe de Belgique?
Allez, avant les pronostics, on n'oublie pas.
D'accord avec Nicolas. C'est bien qu'un petit club ait gagné contre le Real Madrid. Mais bon, moi, j'aurais été contente quand même que le Real puisse mettre 7 ou 8 buts aussi. Donc, c'est ce qu'on attend du Real Madrid. Et là, ils ne l'ont pas fait. Moi, je suis assez déçue. Je suis plutôt déçue de la défaite du Real Madrid que de la victoire.
Oui, il y en a pas mal.
C'est l'heure de leur vie. Hein. Ça va rester dans l'histoire.
Tu crois plus en PSG ou au Real?
C'est
peut-être au PSG.
C'est peut-être le match sur lequel va se construire la saison du Real. Que c'est le match qui va faire qu'ils vont prendre conscience de certaines choses, qui vont être sérieux. Pour moi, ils ont un super effectif et ils iront loin comme tous les ans.
Avec beaucoup de sérieux. Nicolas, peut-être, non,
non.
Ce match-là, référence, non.
Non, je ne peux pas avoir cette expertise là-dessus.
Ouais.
Match référence, la non-référence du Real de Madrid. Ouais. Mais en tout cas, félicitations au Sheriff Tiraspol. Vivement le prochain match de ce club moldave.
D'ailleurs, les joueurs d'origine moldave qui ont gagné contre le Real Madrid, je pense qu'ils vont rentrer dans l'histoire de ce pays. Ils vont avoir la Légion d'honneur.
Ils vont avoir
l'étoile du Sheriff. Ah oui, toute leur vie. En plus, avec le truc du Sheriff.
Ah, peut-être même une statue devant le stade, on ne sait pas.
Oui, mais ils ont beaucoup de moyens. C'est un club qui a énormément de moyens.
Au rétro de la Fraba, une nouvelle fois.
Allez, c'est un club qui a énormément de moyens par rapport au club moldave.
Alors, Yacine, ça tombe bien. Nicolas est avec nous ce soir, ou même encore avec Lumari, qui fait pas mal d'études concernant ce domaine-là, qui est, le football business aujourd'hui. On pète trop nos stars du football. Nicolas, on balance. C'est des auditeurs là.
Je me cache pas, je suis contre.
Qui nous envoie un peu.
Tout simplement.
Est-ce qu'on en fait trop, Nicolas?
Je prends mon petit cas personnel égoïste. L'Anime Olympique, où vous aviez pendant
10 ans
un énorme centre de formation. Donc, il y avait à un moment donné.
Abdel entraîne aussi les jeunes.
Il y avait 5-6 joueurs formés au club qui étaient sur la pelouse. Je parle même pas de ceux qui étaient. Finalement, il y avait une identité. Alors, je sais que c'est un gros mot, mais il y avait une identité de club. C'est pas la raciale au niveau olympique. Depuis cette année, on a perdu l'agrément, donc tout le monde est parti. Mais je trouve qu'il est beaucoup plus intéressant à un moment donné d'avoir des clubs sans trop d'argent aussi, parce que c'est aussi la formation, c'est aussi l'identité d'un club, de savoir fermer les joueurs, aller acheter.
Mais si on n'a pas d'argent, on peut pas former des joueurs.
Exactement, mais au moins, il faut avoir moins d'argent pour former des joueurs qu'acheter Mbappé, Neymar et
alors, moi, je vais apporter un avis très business qui n'est pas un avis, juste un
peu.
Alors, déjà, le truc, c'est que la formation, c'est ce qui permet de financer le reste. Donc aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des ventes.
C'est pas le cas du trading. Non,
ça s'appelle le trading. Non, mais c'est parce qu'il y a des ventes. C'est parce qu'il y a des ventes qui valent cher que les clubs forment. Parce que ça valorise énormément le club. Ce sont des actifs très forts.
Oui.
Mais il y a une chose qui est très intéressante. Quand on parle, est-ce qu'on parle paye trop les joueurs? La réalité, c'est que c'est bête à dire, mais on ne paye pas trop les stars parce qu'ils sont rentables.
Ouais.
Mais on paye tous ceux qu'on paye trop, ce sont les joueurs moyens qui n'offrent pas de retour sur investissement. Alors c'est vrai que on est très loin du football ça me plaît pas. Mais la réalité, c'est que ce sont les joueurs moyens qui coûtent cher dans une masse salariale.
Exactement.
Parce que un Messi, un Neymar, il y a un retour sur investissement parce qu'il va vendre des maillots, il amène du monde au stade.
C'est intéressant, Nicolas.
Il y a des joueurs, Abdel, tu as raison là-dessus, il y a des joueurs aussi qui sont extrêmement surestimés.
Mais bien sûr, mais ça, c'est un.
Des joueurs moyens de gamme, je ne citerai pas de nom,
mais c'est ça dont je te dis, c'est cela qui coûte cher.
Et c'est les médias sportifs et les agents aussi à un moment donné qui gonflent les
valeurs. Sauf que.
Et aujourd'hui, le Covid, je t'imagine là-dessus.
Ouais.
Ce monde-là, il est terminé. Parce que regardez le nombre de joueurs aujourd'hui qui avaient la grosse tête en fin de saison dans des clubs moyens de Ligue 1 et qui ont pensé, Zidane Ferrat par exemple,
il a
pensé signer autre part à Nîmes. Et Pascal Plong, l'éternel olympique, a dit un truc intéressant.
Alors
il a dit, Zinedine Ferrat, t'as pas compris que avec le Covid, le monde du football, l'économie du football avait changé.
Tu as tout à fait raison.
Il ne peut pas aller autre part parce que, bien content qu'aujourd'hui, lui et d'autres, qu'il a un salaire et qu'il a un club solvable, qu'il le paye fin du mois. Et il y a certains joueurs qui n'ont pas compris.
Le problème est dû à quoi? C'est à l'entourage
de l'entourage.
Je peux juste finir et rebondir sur ce que dit
avant les pronostics.
Et ce qui est tout à fait juste, ça rejoint ce que je dis, c'est qu'en fait, ce ne sont pas les grands joueurs, ce sont les joueurs entre guillemets moyens qui sont survendus par leurs agents, mais le public ne s'y trompe pas parce que le public ne va pas acheter des millions de maillots Nicolas de Préville
et qui sont gourmands aussi, les joueurs.
Ils sont gourmands. Et il y a plein d'exemples aujourd'hui, les clubs comme on le dit, ont des problèmes de masse salariale. On voit bien qu'un Mbaye Niang qui signe à Bordeaux, il est obligé de diviser par 3 son salaire. Il est passé de 250 000 euros par mois à 80 000 euros par mois. Et bien content de les toucher. Et ce que je veux dire, c'est que globalement, aujourd'hui, il faut se mettre dans le crâne que ce ne sont pas tous les joueurs qui coûtent cher, ce sont les joueurs moyens.
On va terminer. Yacine, rapide, toi et Abdel. Rapide.
Parce que j'ai soulevé Nicolas
avec le mari.
Zinedine Ferrat.
Oui.
C'est un exemple.
Un Algérien. Alors, vas-y.
Son passage à Nîmes, il a fait deux, voire trois bonnes saisons à Nîmes.
Bonne saison.
Je pense qu'il a trouvé l'environnement qu'il lui fallait pour s'épanouir. Il a même retrouvé sa place sur l'équipe nationale d'Algérie. Il aurait pu. S'il avait vraiment
de partir.
Je ne rentre pas dans les détails, les bons conseillers, peut-être de négocier avec le club. Ça reste une pièce maîtresse de
aujourd'hui, il fait la tête.
En plus, à son âge, je pense que. Parce qu'on lui a fait comprendre qu'il pouvait gagner 5 fois.
Au moins deux fois, oui.
Intéressant,
alors que c'est pas vrai.
C'est vrai ce que dit Yacine maintenant. Les conseillers et tout l'entourage veut gagner autant, voire plus que le joueur. On dirait ça, c'est inadmissible. Après, comme vous l'avez dit, c'est les seconds couteaux qui rapportent pas énormément, qui valent très cher. Et ce qui est compliqué, on parlait des centres de formation, etc. Quand tu vois que dans tous les clubs, il y a des très bons joueurs en jeunes, que ce soit en 19 ou même en réserve, et ben ça bloque la place. Ces seconds couteaux, ils bloquent la place à des potentiels joueurs. Et franchement, si on misait beaucoup plus sur les centres de formation, je te dis pas de les faire jouer.
Même en France, on mise beaucoup sur les centres.
Ouais, mais je suis pas assez. Moi, qui suis beaucoup, je trouve qu'il y en a pas beaucoup
qui forment ces jeunes joueurs.
Et surtout, il y a plein de clubs mythiques qui malheureusement n'arrivent pas à faire cette passerelle parce que ils pensent que des joueurs qui ont un statut professionnel, qui ont gratté un contrat pro une fois dans leur vie à 19 ans, valent mieux que des joueurs actuels qui viennent de sortir de 19 nationaux ou de réserve de L2 ou de national.
La dernière rubrique de cette émission.
Time Sport, le mode pressing.
Ah oui, on a parlé du Paris Saint-Germain, on n'a pas parlé d'un second club qui est en phase finale de cette Champions League, les Lillois, qui se déplacent du côté de Salzbourg. Et oui, dans ce groupe G, deuxième journée. Abdel, le pronostic concernant les Lillois ce soir, 21h.
Moi, je vais dire un partout, allez.
Un partout pour Abdel. Nicolas, Salzbourg, Lille.
Ah, oui. D'accord, je vais dire un bon vieux 0-0.
Allez.
Bien pénible à regarder jusqu'à
l'heure. Aïe, 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 Nicolas, il est assez sévère envers les Lillois. Yasmine.
Moi, je finirai par 2-0 pour Salzbourg.
Salzbourg, 2-0. Louis-Marie.
Bah, c'est le match de la dernière chance pour Lille, déjà.
Ouais.
Donc j'ai envie de croire à l'exploit et au 2-1. Je suis très optimiste.
Allez Yacine, on l'écoute.
Et par hasard ce soir, c'est la deuxième fois que je vais être d'accord avec Louis-Marie. Moi je dirais pas 2-1, mais Lille, ils sont capables de marquer. Même. Moi je trouve cette équipe sympathique.
Allez, les Lillois.
Il faut donner la chance.
Tous derrière les Lillois.
Il faut leur laisser un peu de temps. Je pense qu'ils vont retrouver un petit peu le rythme de croisière. Je sais pas, j'ai beaucoup de sympathie pour les Ch'tis.
Ouais.
Je dirais 3-1.
Ah ben nous aussi. Nous aussi pour les Ch'tis.
Tout
comme les Nîmois.
Il faut
qu'ils gagnent ce soir parce qu'après la double confrontation face à Séville, elle va piquer un peu. Hein.
Allez, un grand merci à Nicolas de nous avoir rendu visite et au plaisir parce qu'il y a beaucoup d'auditrices et d'auditeurs qui aimeraient l'avoir assez souvent, tout comme Yasmine, oui, qui a magnifiquement bien réagi ce soir. Abdel aussi avec nous, notre journaliste consultant, Louis-Marie, et toi, Yassine, notre globe-trotteur. Et oui, sans oublier à la réalisation, Yanis, excusez-moi, je vois beaucoup de. C'est Yanis.
C'est Grilich.
Il est très très bon ce joueur, ouais. Yanis, voilà, et on se retrouve dès demain à partir de 20h sur l'antenne de Beurre FM. Très bonne soirée à vous.
Retrouvez Time Sport tous les jours de 20h à 21h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.